Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Notre personnage de la semaine, Frank Gehry, architecte légendaire, disparu le 5 décembre dernier, laisse derrière lui des œuvres immenses qui ont bouleversé l'architecture mondiale. Visionnaire et audacieux, maître des formes libres et des matériaux détournés, il a façonné un style avant-gardiste reconnu sur tous les continents, de Toronto à Los Angeles et de Bilbao à Paris. Ce portrait retrace le parcours d'un créateur qui a fait danser les lignes, redéfini l'art de construire et transformé l'architecture en véritable langage artistique. Les explications d'Iléana Guillochon.
Le légendaire architecte nous a quittés le 5 décembre 2025. Connu pour son audace et son génie, un homme à la créativité débordante, il a totalement révolutionné l'architecture. Ses œuvres sont tellement nombreuses qu'il est impossible de toutes les citer pour cette rubrique, alors plongeons-nous tout de suite dans son univers.
That's what I want to do. I want to be able to build a building that makes people, moves them 500 years from now.
Il est né le 28 février 1929 à Toronto, au Canada, dans une famille d'origine juive polonaise. Plus tard, il émigre à Los Angeles. En 1954, il obtient son diplôme d'architecture à l'Université de Californie du Sud. Il commence par étudier l'urbanisme, mais abandonne vite pour travailler chez Gurn Associates. En 1962, Frank Gehry ouvre son propre cabinet, Frank Gehry et Associés, à Los Angeles. Il se fait d'abord remarquer à l'échelle nationale grâce à sa série de meubles Eastage, fabriqués en carton ondulé et en panneaux de fibre. Et c'est dans les années 1970 et 1980 que Frank Gehry enchaîne les projets audacieux et innovants. Comme on dit, on est toujours mieux servi par soi-même. Gehry décide d'expérimenter le déconstructivisme sur sa propre maison, un bungalow à Santa Monica. Pas d'obligation de construire droit, place à la manière fantaisiste. C'est là que sa réputation d'architecte avant-gardiste se confirme. Les matériaux y sont détournés de leurs usages traditionnels pour être sublimés.
I had just been through a study of chain link fencing because it was so ubiquitous and because it was so universally hated.
Par exemple, des clôtures en fer se dressent sur le toit et la maison mélange cubes de verre inclinés et parois en tôle ondulée. Entre 1980 et 1984, il réalise sa première grande construction, la faculté de droit de Loyola à Los Angeles. Des couleurs vives la caractérisent, elle s'insère au milieu d'espaces verts, les matériaux sont simples, l'édifice est autonome avec des formes géométriques variées.
There is a certain threatening to taking the leap, but once you try that, you can't stop.
Et en 1989, surprise, Gehry reçoit le prix Pritzker. C'est la plus haute distinction en architecture. À cette époque, il achève le Vitra Design Museum en Allemagne, son premier bâtiment européen. Dans ses œuvres, Gehry joue vraiment avec des formes presque sculpturales et brouille la frontière entre architecture et art. Il donne du mouvement à des matériaux pourtant immobiles, À une époque où tout était plutôt droit, sobre et très minimaliste, la maison dansante de Prague est un exemple parfait. Alors son nom est aussi intrigant que ses deux tours, elle naît de la collaboration entre Gehry et l'architecte tchèque Vlado Milunic. Une tour en verre semble se pencher vers une seconde, en béton, et surmontée d'un dôme. Les architectes imaginent un couple dansant et nomment les tours Ginger et Fred en hommage aux célèbres danseurs américains. Ce bâtiment vivant est rapidement devenu une attraction touristique.
I was very upset with my colleagues going postmodern. Our time is full of movement and change, and this building was the first curvy use of those ideas.
1997, c'est l'ouverture du musée Guggenheim Bilbao qui assoit sa réputation internationale et l'U-Building devient l'un des plus influents des temps modernes. Impossible de manquer ce bâtiment. C'est une œuvre aux courbes ondulées, un peu comme un poisson. Elle combine roche calcaire, verre et titane. La lumière s'y reflète, ce qui révèle le style avant-gardiste de l'architecte. Le musée Guggenheim est officiellement inauguré par la reine et le roi d'Espagne. Un vent de renouveau souffle sur la ville et il attire des touristes du monde entier. Même les pères de Frank Gehry le considèrent comme une œuvre majeure du XXe siècle. Le succès est tel qu'une expression naît, l'effet Bilbao, le phénomène qui montre qu'un investissement culturel associé à une architecture spectaculaire peut relancer l'économie d'une ville en difficulté. Une surprise pour Gehry, qui continuera à créer encore plus et dans d'autres villes iconiques. D'autres projets célèbres suivent, on pense par exemple au Walt Disney Concert Hall à Los Angeles en 2003, au gratte-ciel 8 Spruce Street à New York en 2011, également appelé Big Ben Tower autour de New York by Gehry. À l'époque, c'était même le plus haut gratte-ciel résidentiel des États-Unis. Et il y a encore la Fondation Louis Vuitton à Paris en 2014. D'autres projets moins connus méritent d'être mentionnés. En Espagne, il a créé un hôtel spa au milieu des vignes de La Rioja, une structure futuriste mêlant pierre, verre et titane, entrelacée de rubans métalliques colorés qui scintillent au soleil. L'architecte américano-canadien est l'un des rares de sa profession à s'être hissé au rang de superstar. D'ailleurs, fun fact, Frank Gehry a même eu droit à son personnage dans la série Les Simpsons. Même après sa disparition, ses créations continuent de vivre. Format Condos à Toronto en sera le dernier témoignage en 2028. Frank Gehry, c'était un créateur passionné, une légende qui, encore aujourd'hui, continue de faire danser l'architecture.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Évidemment, on rit comme des enfants, mais pas comme avant.
C'était France Gall, une très belle chanson écrite par Michel Berger, évidemment, en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause et deuxième partie d'Europa Voice. Tout de suite après ça, on parle du budget de la France. Seconde partie d'Europa Voice, toujours avec Nathanaël Bloch. Vous êtes toujours avec nous, Nathanaël?
Toujours avec vous, Christophe, et encore plus, puisqu'on va parler de budget.
Eh oui, alors ça, c'est, je sais que, bon, alors vous êtes beaucoup plus intéressé à ça que moi. On va, ça, c'est les faits dans la réalité humaine. Mais ce budget de la France, il est discuté depuis un bon moment. Il a coûté, la vie à un ou deux gouvernements. Et il y a des grosses questions autour, tout simplement, de la sécurité sociale.
Alors, c'est effectivement une épine, hein, dans le pied du gouvernement Le Cornu, du gouvernement 2, Le Cornu, je devrais dire. On en est à ce qu'on appelle le projet de loi de finances de la sécurité sociale, donc le PLFSS, pour les aficionados des questions budgétaires ici en Australie et pour nos auditeurs de Robavoy qui nous écoutent à travers le monde. Ce qui se passe, c'est que les députés, l'Assemblée nationale, donc les députés à l'Assemblée nationale, ont dû voter en seconde lecture ce budget de la sécurité sociale, et il y avait une espèce d'enjeu politique, c'est-à-dire que le gouvernement Le Cornu ne voulait pas utiliser le 49-3. Pourquoi, Christophe? Pour la simple et bonne raison qu'il voulait montrer que ce budget était, j'allais dire, voté, accepté de bonne foi et pas sous la contrainte gouvernementale, parce qu'il y a toujours cet aspect gouvernement versus Parlement, et cet outil, il existe, hein, ce 49-3. Il existe, il est prévu dans la Constitution, mais il donne effectivement l'impression de mesures qui sont parfois non démocratiques, dans le sens où elles ne sont pas acceptées au Parlement, mais le Parlement lui-même est contraint. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que les députés ont voté à 247 voix pour 234 voix contre, donc à une très faible majorité, pour ce budget de la sécurité sociale. Donc c'est une victoire. Et il faut le mentionner, hein, on signale pas assez les trains qui arrivent à l'heure et peut-être pas assez pour le gouvernement Le Cornu 2, mais c'est une victoire et peut-être une première victoire pour ce gouvernement-là pour sortir de ce qu'on a appelé pendant des semaines et des semaines l'impasse budgétaire.
Et à quel point, alors là vous dites c'est une énorme victoire, mais à quel point c'est important?
Alors j'ai pas dit c'est une énorme victoire, j'ai dit c'est une victoire.
C'est une victoire. C'est une victoire. À quel point c'est énormément important? Alors, je vais dire pour le gouvernement, justement. Détaillons un petit peu ça. Parce qu'on sait que le gouvernement est vraiment sur le fil du rasoir. La majorité, elle se trouve vraiment, elle est flottante en plus sur des questions comme ça. On le voit. À quel point c'est important à ce, en gros, une des premières raisons, des votes marquants pour ce gouvernement?
Alors, encore une fois, il y a un aspect qui est vraiment politique sur ce vote-là du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est qu'en fait, depuis 2022, on sait, hein, l'exécutif, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, en fait, depuis 2022, chaque année, hein, puisque c'est un projet de loi budgétaire annuel, chaque année, l'exécutif, le gouvernement choisit de faire adopter les projets de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale avec le 49-3 de la Constitution. Donc, pour éviter un vote parlementaire et pour éviter un blocage. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait que Michel Barnier, le prédécesseur de Sébastien Le Cornu, lui-même avait chuté il y a à peu près un an de cela, en décembre 2024. Et donc, c'est extrêmement important parce que non seulement c'est la première fois en 3 ans que ça se passe de la sorte, c'est-à-dire avec un vrai vote, et pas un 49-3, donc pas un évitement du vote parlementaire. Mais surtout, c'est important parce que s'il a réussi à faire voter ce budget, Sébastien Le Cornu, c'est qu'avant, il a dû négocier des compromis avec l'ensemble des groupes politiques et sur un certain nombre de mesures que les commentateurs qualifiaient de sensibles, au rang desquelles, et je ne vais pas rentrer en détail, mais la hausse de la CSG sur le capital, la suspension de la réforme des retraites, etc., etc. Et donc, c'est en ce sens-là, même si l'information est mineure et restera mineure dans les livres d'histoire, c'est en ce sens-là que dans l'histoire politique moderne et de Macron 2, c'est une petite victoire pour Sébastien Lecornu et peut-être aussi une manière de limiter la casse. Et là, je fais un peu de projection politique, une manière de limiter la casse pour les municipales à venir et donc, in fine, de limiter la casse pour les présidentielles à venir dans 2 ans.
Ouais, c'était une de mes prochaines questions. Ça. Est-ce que, en mauvais français, le momentum, est-ce que ce momentum, est-ce qu'il peut être apporté et emmené dans le, en tout cas, la première partie de ce gouvernement?
C'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que encore une fois, de quelle manière maintenant les prochaines élections intermédiaires, enfin notamment les municipales, vont être nationalisées? Ce qui est sûr, Christophe, c'est qu'on va suivre de très près le score, les résultats, pardon, de la France insoumise. On va suivre de très près les scores de la France insoumise dans les moyennes et grandes agglomérations, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est que pour la première fois, la France insoumise ou les écologistes ont la main sur certaines municipalités considérées comme de premier plan. Et donc, on va voir comment, en même temps, une certaine stabilité nationale, une certaine stabilité gouvernementale et peut-être aussi un ras-le-bol au sein de certaines municipalités vont faire que cela bénéficie ou pas au bloc central. Il y a déjà des projections. Par exemple, si je prends l'exemple de Strasbourg qui est assez parlant, la ville a longtemps été au sein des partis majoritaires, la gauche et puis la droite. Elle est tombée aux mains des écologistes aux dernières municipales. Et puis là, il semblerait que les écologistes soient loin derrière, mais ça ne bénéficie pas forcément au bloc central, ça bénéficie de nouveau au Parti socialiste. Donc c'est aussi ça l'interrogation, c'est est-ce que cette stabilité nationale, elle ne vient pas finalement trop tard pour que le bloc central et le parti ou le gouvernement d'Emmanuel Macron bénéficient aussi de bons résultats aux prochaines municipales. Et puis il y a une autre question, Christophe, qu'il faut aussi se poser, c'est est-ce que Emmanuel Macron, il est plutôt dans une optique après moi le déluge, la technique de la terre brûlée, c'est-à-dire que finalement, il préfère ne pas avoir de dauphin et rester dans l'histoire comme celui qui aura cassé l'appareil politique classique, la droite versus la gauche, et puis fait son mandat, ou est-ce qu'il veut laisser un héritage, Renaissance, En Marche, et nommer officiellement un prochain dauphin, avec notamment en contexte le fait que on sait son inimité historique avec son ancien Premier ministre Édouard Philippe, et donc très certainement il ne lui laissera pas cette place de leader du bloc central. Donc vous voyez, il y a plein de pièces comme ça en mouvement, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne chose pour le bloc central que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale ait été voté.
Il a été voté à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il doit passer maintenant au Sénat et est-ce qu'il doit suivre son cours ou est-ce qu'il y a une voie raccourcie?
Ce qui s'est passé en fait là, c'est que les députés, ils l'ont déjà encore une fois adopté à la Chambre, enfin au Parlement, donc à la Chambre basse. Maintenant, ça va suivre son chemin classique. Ce qui aurait pu se passer, Christophe, c'est que c'est ce qu'on appelle, si je ne m'abuse, une commission mixte paritaire. C'est-à-dire que s'il y avait un blocage final, ça aurait été un certain nombre de députés et de sénateurs qui auraient ensemble voté ce texte-là, ou pas d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, le texte qui a été voté va devoir quand même encore passer par le Sénat. Donc, on n'est pas au bout du processus législatif. Mais c'est ce que je vous disais, hein, il suit maintenant la voie normal. Ce qui est possible, Christophe, c'est que le Sénat décide soit de rejeter le texte, soit de le retravailler. Mais de toute façon, il y a une date limite pour ces projets de loi de finances et ces projets de loi de financement, qui est la date du 23 décembre. Donc, de toute façon, l'Assemblée devra se prononcer pour valider un texte définitif, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, au cours des prochains jours, parce que la guillotine, Christophe, est la veille de Noël. Donc, de toute façon, même si le Sénat veut le retoper un peu, le modifier, tout doit être empaqueté pour être mis sous le sapin avant le 23 décembre.
Eh bien, ce sera une belle affaire à suivre. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Il a plu dans la chambre. Est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai les mains qui tremblent. Je cherche un peu la flamme. Est-ce qu'il reste nous quelque part? Je baisse un peu la gueule.
c'était Louane avec sa chanson La Pluie, chanson qui a fait partie de notre sélection musicale il y a quelques mois. Et pourquoi pas se faire plaisir pour la rejouer en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause et on parle de la deuxième partie du film En Fanfare, interview avec son réalisateur Emmanuel Courcol, tout de suite après ça.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French. Vous êtes avec Radio SBS en français.
Alors aujourd'hui, bonjour, on a le plaisir de recevoir dans notre programme Emmanuel Courcol pour un film En Fanfare. Bonjour Emmanuel Courcol.
Bonjour.
Comment on en vient à faire un film sur une fanfare dans le Nord ? Je sais que en milieu des années 90, il y a eu un film anglais, un Brastoff, qui avait été très 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 populaire d'ailleurs sur cet effet. Et on sent beaucoup de similarités d'ailleurs entre une fanfare dans le Nord de l'Angleterre et une fanfare en France. Et les contraintes qu'il y a pour la survie d'une fanfare. Et comment vous, en tant que réalisateur, vous en venez à faire un film sur une fanfare qui prend le centre justement de l'histoire dans une fanfare dans le nord de la France?
Oui, d'abord c'est vrai que j'avais vu Brastoff, enfin Les Virtuoses, puisque c'est le titre français.
Ah, c'est toujours français.
À l'époque de la sortie, et que évidemment c'est un film qui m'avait beaucoup touché, beaucoup plu. Et puis après j'ai oublié, je me souvenais du film, mais j'avais pas à ce moment-là donné l'envie de refaire un film. Mais voilà, le hasard, je dirais, m'avait conduit dans le nord à l'occasion d'une consultation comme script docteur sur un scénario et qui se passait un peu dans ce milieu-là. Et c'est à la suite de ce travail que j'ai eu cette idée, je dirais, de départ. Là, je me suis dit, et si justement ce monde des fanfares populaires dans le Nord pouvait rencontrer, je dirais, son contraire, c'est-à-dire le monde de la grande musique, voilà, l'élite musicale, et voyons à travers la rencontre de deux frères comme ça qui se seraient pas connus, ce que ça peut donner, quoi. Voilà, c'est ça l'idée de départ. Et le Nord, pourquoi le Nord? Parce que j'avais eu un petit coup de cœur pour le Nord, et puis que justement, d'abord c'est une terre de fanfares, hein, c'est le passé minier du Nord. Et il y a plus de mines, mais il y a encore des fanfares. Alors même s'il y en a un peu partout en France, mais c'est vrai que dans le Nord, c'est là où il y a la plus grande densité d'harmonie et de fanfares. Et que quand on est là-bas et qu'on aime le cinéma britannique, on se dit, tiens, il y a comme un air de famille quand même. Hein. Il y a les briques, il y a les gens, il y a les mines, il y a tout ce passé ouvrier. Et on retrouve tout ce cinéma britannique que moi j'adore, qui est cette comédie sociale.
À la Ken Loach, on va le dire. Son nom, c'est Ken Loach, à la Ken Loach.
C'est Ken Loach, évidemment, Ken Loach. Bah, oui, puis on pense à The Full Monty, etc., ouais. Yacht et compagnie, qui sont des films à la fois durs et à la fois très... plein de sensibilité. Et on voit une belle humanité. Bon, ça m'a influencé, évidemment. J'avais envie de faire un film dans cette mouvance-là, quoi, en fait. Hein.
D'accord. Si on parle du casting, donc Benjamin Laverne, bon, il y a plein d'acteurs, on va pas tous les citer, mais au centre c'est Benjamin Laverne et Pierre Lottin, des acteurs de prime abord différents, un parcours différent. Pour vous, comment s'est effectué ce choix justement entre les deux frères?
Alors Pierre Lottin, j'avais déjà travaillé avec lui dans mon film précédent qui s'appelle Un Triomphe, et donc quand on a commencé à écrire le scénario avec Irène Muscari, tout de suite on a pensé à Pierre. Le rôle était était écrit un peu sur mesure pour lui, et il a inspiré le rôle autant que on s'est inspiré de lui. Et après est arrivé un peu plus tard le personnage l'acteur, donc Benjamin Laverne, pour incarner Thibault, le chef d'orchestre. Mais lui, je dirais qu'il est arrivé comme une évidence, quoi. Voilà, quelque part ils incarnaient déjà les personnages sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils ont des parcours très différents, hein. Benjamin, comédie française, un milieu, je dirais, vient d'un milieu un peu bourgeoisie de province, mais ils ont tout de suite, quand ils se sont rencontrés, la première fois que je les ai fait se rencontrer, ils se connaissaient pas, ils avaient pas travaillé ensemble. On a déjeuné ensemble et je les ai vus tout de suite, ça a matché entre eux. Tout de suite, il y a eu cette espèce d'alchimie qu'on retrouve dans le film. Ils avaient envie de travailler ensemble. Ils sont très, très bien entendus sur le film. Et avec leurs grosses différences, en fait, et de parcours et de, je dirais, nature de comédien, on retrouvait déjà les deux protagonistes, en fait. Donc, ça a été vraiment le bon choix, je crois. J'aurais pas.
Est-ce que Pierre Lottin, il a aujourd'hui un peu du mal de sortir son succès des Tuches ou pas? Est-ce que en tant que réalisateur, pour vous, c'est aussi une complexité de dire, on va faire jouer quelqu'un comme Pierre Lottin, qui est un acteur extraordinaire, qui est très, très bien. Mais il a aussi cette image très populaire des Tuches.
Oui,
mais c'est compliqué ou pas?
Oh, c'est pas si compliqué. Je dirais que ça peut être un problème pour lui. C'est lui qui doit gérer ça. Mais moi, c'était pas un problème parce que le personnage des Tuches est tellement différent de ce qu'il fait dans le film que pour quand je l'ai casté pour mon film précédent, pour Un Triomphe, j'avais pas vu les Tuches. Moi, c'est pas un cinéma que je vais voir. Je n'ai pas de mépris pour, mais c'est vrai que ça m'intéresse pas tellement. Donc, et moi, je l'avais repéré dans un court métrage, donc il n'avait rien à voir avec les Tuches. Hein. Donc, je m'étais dit, tiens, cet acteur est formidable. Donc, voilà, j'avais envie de le rencontrer. Et après, on m'a dit, mais tu sais, c'est l'acteur des Tuches, tout ça. Ah, je dis, ah bon, bah très bien, voilà. Et donc, pour moi, ça n'existait pas vraiment. Et après, donc, j'ai eu envie de retravailler avec lui parce que c'est vrai qu'on s'était bien entendu et qu'il était déjà formidable dans ce film. Donc, ça s'est passé comme ça. Maintenant, après, c'est lui qui a plus à gérer ça, sa carrière, par rapport aux Tuches et les choix qu'il va faire depuis En Fanfare. Hein,
si on revient sur le film En Fanfare, donc, c'est un film qui est sorti en 2024. On est en fin 2025. Il a une sorte de seconde vie, troisième vie à l'étranger.
Oui.
Un, est-ce que ça vous surprend? Et deux, comment on gère ça, justement? Parce que là, des interviews sur ce film, vous en avez fait des dizaines, vous en avez fait presque des centaines, et on se retrouve encore à parler de votre film, En Fanfare, et ce coup-là avec l'Australie.
Mais moi, ça me réjouit, parce que c'est un film qui est très heureux pour moi, c'est des souvenirs très heureux, à la fois de tournage, de rencontres avec tous ces gens-là, je dirais, de bonheur de tournage avec les acteurs, et puis de sortie, de succès, etc. Donc voilà, je repense à Cannes, etc. C'est vraiment un film, je dirais, béni, un peu béni des dieux. Et alors donc moi, je le revis très très facilement. Hein. Même si je suis déjà en train de, entre temps, j'ai tourné un autre film donc cette année et je suis en fin de post-production du prochain film, mais j'y retourne toujours avec beaucoup de bonheur et notamment, vous voyez, il y a une quinzaine de jours, avec Irène, on est allé au festival Alexandrie, le film francophone où En Fanfare était projeté pour ouvrir le festival. Donc là, ça continue et on retrouve les mêmes émotions auprès de publics très très différents. Là, c'est un public égyptien, voilà, mais maintenant, ça va être autour de l'Australie. Entre-temps, je continue à avoir des retours un peu du monde entier, des gens qui m'envoient des petits messages, et puis l'accueil aussi des journalistes. Je sens bien que c'est un film qui touche, quoi. C'est pas juste, voilà. Je sens que c'est sincère. Et voilà, quand au mois de septembre, j'ai fait des interviews pour le Japon, et j'ai senti le même intérêt, quoi. Donc ça me touche beaucoup.
Et pour revenir au centre du film, les gens du Nord. Il a été accepté comment, ce film? Je sais que vous avez fait une première à Lille. Oui, comment il a été accepté, ce film, avec
eh ben, il a été très bien accepté parce que c'est vrai que les gens du Nord, ils n'ont pas toujours été très bien traités au cinéma. Hein. Il y a pas un tas de clichés sur eux, même si on les aime bien, ils sont toujours chaleureux, sympas et tout. Et en même temps, bien sûr. Donc, ils sont un peu, pas méfiants, mais. Ils demandent toujours, effectivement, il y a un petit complexe, dit comment on va parler de nous et tout ça. Et ils ont été très heureux, très, très touchés par eux. Parce qu'ils nous ont dit, c'est vraiment nous, quoi. Il n'y a pas de cliché, justement. C'est nous. On se retrouve là-dedans. Quand on a été faire l'avant-première à Douai, on est arrivé dans la salle. Toute la salle s'est levée à chanter, les corons. C'était un groupe Pierre Bachelet, un grand moment vraiment d'émotion pour nous. Et vous voyez, il y a toujours, dans toutes les avant-premières que j'ai faites, y compris la dernière dont je vous parlais justement, Alexandrie en Égypte, il y a toujours quelqu'un du Nord, dans l'échange avec le public, qui se lève et qui dit « Moi, je suis du Nord, et c'est exactement ça. Vous parlez bien des gens du Nord. » Et ça, c'est une grande satisfaction, parce que c'est vrai que les gens avec qui j'ai bossé là-bas, on a travaillé avec l'harmonie et la fanfare du film, c'est des gens de là-bas, hein, de l'Alain, près de Douai. Je dirais loyauté, je dirais par respect pour eux, j'avais envie aussi de les valoriser et qui se sentent bien représentés dans le film. Et donc ça, c'est, je suis très heureux que le film soit reçu comme ça.
Alors. Et partout dans le monde. Emmanuel Courcol, merci en tout cas pour ce petit temps pour nous sur SBS. Et le film ouvre nationalement donc en Australie. Il sera diffusé. Cherchez un peu sur Internet. Vous allez pouvoir le voir. Il est à peu près présent un peu partout. Merci.
Merci à vous.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi. Glamour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. La femme de ta vie.
Et c'était toutes les femmes de ta vie de Julien Doré en ce dimanche. Allez, courte pause et on passe à la deuxième partie de notre archive avec le réalisateur du film Sœur Sourire, tout de suite après ça.
Cher auditeur, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Tim Konings, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de Sœur Sourire, Sister Smile, film sur une chanson, sur une personnalité. Il y aura et le succès et l'insuccès et la souffrance et cette interrogation qui a commencé continue à travers les dialogues, à travers les situations, à travers les échecs aussi, qui font en sorte qu'elle retombera. On a parlé d'arrogance de Jeanine Dekker, mais ne s'agissait-il pas au contraire d'une sorte d'immaturité?
Certainement, jusqu'à un certain âge, et ça peut-être chez elle, ça s'est resté jusqu'à la fin de sa vie. Mais en même temps, je crois que la différence, c'est que Cécile de France, comme comédienne, elle a compris la complexité et c'est ce que ça veut dire être une star. Et c'est, à mon avis, c'est pour ça qu'elle était pas seulement intéressée, mais qu'elle savait que Jeanine Dekker, c'était une emmerdeuse, peut-être, mais que en même temps, il y avait cette immaturité et vrai. Et là, elle était quand même, on pourrait dire, égoïste ou très égocentrique, dans le sens que certainement, par le succès, elle ne savait plus comment traiter ce succès. Elle a oublié tous ces autres idéaux qu'elle avait certainement avant, de quand même vouloir changer le monde et faire des choses, des belles choses avec des jeunes et tout ça. Mais certainement, dès qu'elle avait ce succès, elle était entre autres entre la pression d'Annie, entre pas savoir ce qu'elle devait faire avec elle-même et de dire voilà, il faut m'aimer mais à tout le monde, et oublier de donner ou de penser aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui, on voit ça dans les yeux, dans les documentaires de la vraie Jeanine Dekker. Et là, c'est peut-être le seul moment où on a copié la réalité. C'est pendant l'interview avec, dans le film Todd Peterson, le journaliste américain. On voit dans les yeux quelqu'un qui pense à elle-même, et ça, c'est devenu aussi sa tragédie, c'est de ne pas pouvoir accepter qu'elle n'avait pas tout le talent musical qu'elle pensait, mais elle le savait. Il semblait que c'était quand même une star, et elle ne l'était pas. Sans l'uniforme, sans le costume, sans le titre de Sœur Sourire, ça, c'était le drame, elle n'était pas capable de créer le succès elle-même.
Vous le montrez d'ailleurs. Vous montrez que l'habit fait le moine, au vrai sens du terme. L'habit, dans ce cas-là, fait la sœur et la nonne. Et d'ailleurs, à un certain moment, son manager canadien lui dit « Une donzesse d'enfer et une nonne, ça ne va pas ensemble. » Il le lui dit et elle n'arrive pas à trouver un équilibre entre ces deux extrêmes.
Voilà, c'est ça. Et donc, je crois que pas mal de gens peuvent reconnaître. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est pour ça que je crois que l'Église a fait une erreur au départ, en même temps de dire, voilà, l'amour, c'est le thème principal. Quand on dit Dieu, c'est l'amour. Et en même temps, très bien savoir qu'on est aussi quelque part un animal et on a besoin de l'amour et de la sexualité. Et donc, c'est impossible de dire que ça n'existe pas. Et ça, c'est le...
C'est le dilemme de l'Église. Ouais, c'est encore le dilemme de l'Église, d'ailleurs.
Évidemment.
Mais d'ailleurs, c'est une chose que l'on remet en question maintenant. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, que l'histoire rappelle ce qu'était l'Église jusqu'au Xe siècle, où les prêtres étaient mariés. Et c'est à partir du Xe siècle qu'il y a eu des règles totalement différentes. Nous revenons à Jeanine Dekkers. J'ai pensé que c'était quelqu'un, et Cécile de France la joue admirablement, parce que Cécile de France est une merveilleuse actrice d'une part, mais en même temps c'est une belle plastique, un très beau visage, très expressif, un beau corps. Et là, elle joue une fille qui est un peu masculine, mal dans sa peau, sportive, un peu garçon manqué, sans grâce, elle s'en les dit. D'ailleurs, on a l'impression que c'est à souhait, elle s'en les dit parce qu'au début, on la voit avec ses lunettes, cette coiffure qui n'est pas particulièrement flatteuse. Et on se dit, mais l'ayant vue dans d'autres films, on a du mal à la reconnaître. Mais elle joue ce personnage, mal à l'aise dans sa peau, mal dans sa vie, mal avec les autres, écorchée comme elle le dit elle-même, brutale aussi. Elle est d'une brutalité qui est bien souvent à la fois les timides et ceux qui subissent ce mal-être.
Oui, exactement. Ça, c'est son talent aussi de pouvoir jouer ça. Et on a cherché à fond pour justement créer la différence entre la Cécile de France qu'on a vue dans d'autres films et au niveau physique, on s'est bien même amusé aussi de changer cette coiffure, la recherche des lunettes, tout ça, c'était juste pour essayer de la créer d'une façon le plus laide possible.
Ça a dû être dur parce qu'elle est très belle.
oui, c'est ça qui fait où elle montre le grand talent de pouvoir changer. Donc on peut presque pas la reconnaître, comme vous avez bien dit, c'est expliqué. Donc je crois que ça c'était un des challenges, on pourrait dire, pour ce film et pour cette histoire. C'est justement jouer avec ce caractère et ce personnage.
Il y a cette merveilleuse image, où première photo quand la célébrité arrive, où on la voit de dos. Elle aurait voulu être reconnue, elle aurait voulu qu'on la photographie de face, mais il décide, pour une raison commerciale peut-être, pour nourrir un petit peu le mystère, mais aussi parce que, et ça elle ne le sait pas, la mère supérieure a demandé à ce que son visage ne soit pas révélé. Donc il y a cette photo publicitaire où on la voit de dos. Et finalement cette photo devient le symbole de ce qu'elle est, parce que on a l'impression de... tout d'un coup, d'avoir un contact avec un aspect de son personnage. Et puis après, il y a des changements tellement brutaux qu'on ne sait plus très bien si c'est elle ou si c'est quelqu'un d'autre. Et finalement, elle se perd elle-même entre les différents visages montrés et les visages cachés.
Oui, et cette photo, donc, ça c'est quelque chose qu'on a récupéré dans le sens que ça s'est vraiment passé comme ça. Elle était... sur le Paris Match, entre autres, le magazine, de dos. Et donc, on l'a photographié de dos parce que, effectivement, c'est comme ça qu'on a créé le mystère. Et c'est, entre autres, grâce à ce mystère qu'elle a eu ce succès. Parce qu'on était intéressé, mais qui est cette nonne, qui est cette femme? Et donc, en même temps, nous, on l'a essayé de l'analyser d'une autre façon et de le voir et de le montrer en même temps de face. Qu'elle se réalisait en même temps et tout de suite. Tiens, c'est bizarre comme photographie comme ça. c'est ce qu'on n'a évidemment jamais vu ou pu savoir de la vraie Jeanine Dekker. Donc, nous, on est allé un peu plus loin, et ça, c'est quelque chose qui revient après dans sa vie, c'est de qu'elle voulait être vue par tout le monde et être dans la presse et d'être une star. Et ça, c'est devenu le drame.
C'était son drame, parce qu'elle flottait aussi entre trois noms, Jeanine, Sœur Gabrielle et Sœur Sourire.
Oui, et le fait que le nom Grossaudet de l'Église était encore le nom de ses parents avec qui elle avait ses problèmes. En plus, c'était très dur pour porter ce nom et d'être aimée comme Sœur Luc Gabriel. Elle avait envie d'oublier ses noms.
Elle avait envie d'oublier son nom, mais elle avait envie d'être nulle part, elle avait envie d'être quelque part, elle avait envie d'être libre, elle avait envie d'être enfermée. Elle ne savait pas vraiment. On a l'impression que jusqu'à la fin, elle ne résout pas, sauf avec cette dernière phrase qui t'empêche d'aimer, dit le Père Jean. Et elle se rend compte qu'elle a aimé dans sa jeunesse, que sa jeunesse a été marquée par un amour en particulier. Et la dernière scène est incroyablement émouvante. La lettre à sa cousine, à Françoise. Et Françoise qui réalise le rêve qu'elles avaient toutes les deux. Et puis les volets qui se ferment.
Oui, c'est le volet qui se ferme. C'est aussi parce que, évidemment, c'est symbolique et pas symbolique. C'est surtout aussi une question de... Pour moi, c'était plutôt une question de poésie. Parce que comment on peut accepter qu'un personnage principal d'un film qui, dans la vie, on a aussi, des personnages principaux. C'est notre famille, c'est les gens qu'on aime vraiment, ce sont nos caractères et nos personnages principaux. Donc c'est très dur d'accepter que quelqu'un fait faire sa vie et en même temps, je ne voulais pas être là avec un marteau pour un public pour dire et voilà maintenant comment ça va se terminer et comment ça se terminait dans la réalité. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est comme ça que c'est passé. C'est avec les deux, c'est avec l'alcool, c'est avec les médicaments et les paquets qu'on voit, les cadeaux. Ben, c'est basé sur des photos qu'on a trouvées tout de suite après sa mort. Donc, c'est symbolique, c'est menti, c'est pas menti, c'est en même temps, c'est juste. Et la lettre et la cousine, même si c'est une tragédie, le film est moins dur que la vie parce qu'elle avait une sœur, elle n'avait pas de cousine comme dans le film, mais l'histoire avec la sœur est très triste. J'ai rencontré sa sœur il y a 2 ans et elle veut plus rien avoir avec cette histoire de Sœur Sourire, donc de sa sœur. Et donc on a créé un autre personnage qui est la cousine et c'est le seul espoir qu'il y a peut-être pour l'avenir, et je crois qu'il faut garder toujours une ouverture dans la vie.
Absolument, et vous le faites, et on repart avec cette image où elles étaient, on les voit ensemble heureuses pour la première fois, et puis ensuite on voit Françoise qui réalise le rêve des deux qu'elles avaient ensemble. Et j'ai une dernière question, Stine Koenig, c'est est-ce que la chanson va ressortir? Est-ce qu'on va en refaire un tube? Parce que la chanson, elle perdure.
Je dois dire, ils vont réenregistrer la chanson. Ici en Belgique, on a pas mal joué à la radio, mais je peux pas dire que c'est redevenu une tube. Mais j'espère que chez vous, que ça va marcher.
Mais je crois que c'est une chanson qui est vraiment entraînante, qui est très belle, poétique, enjouée. Elle a tout pour plaire et c'est une chanson qui est à la fois inscrite dans le temps, mais qui est aussi intemporelle.
Absolument, je crois que c'est comme ça qu'on l'a traité dans le film, c'est que chaque grand tube, on pourrait dire, a quelque chose à voir avec l'amour, hein,
oui.
Ou avec le drame d'amour. Et donc, là où c'était dans la réalité une commande, apparemment, comme Jeanine Dekker l'expliquait elle-même, ici, on le voit dans le film comme un moment de liberté surtout. À un moment, peut-être un des seuls moments dans sa vie où elle se sentait très bien à l'aise, et voilà.
Et heureuse, heureuse. Puis c'est un moment d'inspiration.
Voilà. Hein, donc, et je crois que c'est ça qui fait que dans le monde entier, on l'a quand même entendu de cette façon-là. Et voilà. Mais le problème, comme on a dit, c'est que elle n'avait pas le talent musical comme Mozart ou comme The Rolling Stones ou Clapton ou n'importe qui qui disent voilà, maintenant on va faire une autre. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait au niveau musical.
C'est-à-dire que c'était la femme d'une chanson finalement. C'était un moment, voilà. Et c'était un moment qui a été très éphémère.
Voilà.
Mais qui a déterminé beaucoup de choses. Steen Konings, merci pour ça et merci pour l'avoir fait parce que c'est une histoire qui est tragique. C'est une histoire aussi qui a des moments comiques. Et c'est une histoire qui représente un moment dans la jeunesse ou dans le souvenir de tous ceux d'entre nous qui sont encore vivants. Tout le monde a entendu cette chanson à un certain moment.
Et voilà, c'est un souvenir et en même temps l'histoire n'était pas vraiment connue. Et le film, un autre point de vue sur son histoire que The Singing Nun ou dans des documentaires qui ont été faits.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Lulu Gainsbourg, prénom derrière le nom de famille, donc bien entendu le fils du regretté Serge Gainsbourg en ce dimanche. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.au/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.au/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.